7 milliards de voisins.
On est ensemble. Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Ok.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Dernier numéro de notre série d'été Vivre en ville. Oui, c'est déjà fini. On est à la 10e ville. Nous étions hier dans la ville Récompense à Pyongyang en Corée du Nord. Et aujourd'hui, vivre dans une ville coffre-fort, Genève, racontée par Marie-Josée Astre-Desmoulins. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Alors le coffre-fort, ça ne concerne pas que les banques. Hein. C'est un titre à tiroir. Il y a aussi ceux que l'on appelle les internationaux, dont vous faites partie. Vous êtes une ex-fonctionnaire des Nations Unies, aujourd'hui consultante indépendante et spécialiste de la gestion de conflits. Vous avez vécu, vous avez travaillé dans une vingtaine de pays et vous êtes profondément amoureuse de Genève, bien que française.
Absolument. Profondément amoureuse de Genève et française. Je pense qu'en tout cas pour la France voisine, frontalière avec Genève, Genève est aussi clairement une forme de nirvana, dans le sens où évidemment les conditions de vie ou les salaires sont très attirants, donc bien sûr.
Alors vous avez d'ailleurs une habitation, une maison côté Savoie, dans une Savoie très urbanisée, hein, du côté français, et puis un minuscule studio de poche à Genève quand vous voulez éviter les embouteillages. Vous nous raconterez tout ça. Vous avez publié Genève et moi, du mot émotion, donc il y a le jeu de mots. Genève est une ville quand même assez grise.
C'est intéressant parce qu'elle est grise du point de vue du brouillard, puisqu'elle est prise entre le Jura et les Alpes. Donc elle est absolument magnifique. C'est un joyau posé dans un berceau entre deux montagnes extraordinaires, vue sur le Mont Blanc, etc. Et bien entendu que ces deux montagnes, sur un lac, ça emprisonne parfois un peu de brouillard. Mais elle n'est grise que dans ce sens, parce que sinon elle est très colorée.
Vous avez tous les arguments pour défendre Genève, je le sens aujourd'hui. Une ville coffre-fort aussi parce que le milieu des vrais Genevois est difficile à percer. Aussi difficile peut-être qu'une porte blindée. Genève, c'est aussi la ville universellement ennuyeuse pour les jeunes. Ici, les comptes en banque bien fournis sont quand même plus nombreux que les boîtes de nuit. Et ceux qu'on appelle donc les internationaux, c'est-à-dire vous, les employés des agences ONU, ce que vous avez été, et autres organisations internationales ne côtoient pas vraiment les banquiers en costume sombre qui eux-mêmes ne rencontrent pas ces milliers de Français qui chaque jour passent la frontière pour venir travailler à Genève sans en payer les loyers élevés. Alors, qui parle avec qui à Genève? On peut se demander. La ville aux plus de 180 nationalités, 40% de la population est étrangère. Je vous lis le message d'un auditeur, Olivier, il est en Roumanie, et quand on a annoncé la ville, il a quitté la Suisse il y a longtemps, il a dit, mais moi j'y reviens de temps en temps, de préférence à Genève, et toujours me reste cette pensée à France-Suisse, coffre-fort, hâte de vous écouter. On démarre avec Charline Mignot, alias Vendredi sur mer, une genevoise de 25 ans, son album Premiers émois. Je vous offre Écoute chérie.
J'ai pas fait semblant, je te jure, j'ai jamais dit non, j'ai juste... J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste laissé le temps courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir et mourir. Écoute, chérie.
De voisins pour les voisins et les voisines.
Comme vous pouvez...
pouvez le voir sur cette carte, la Suisse, dit Schweiz, est composée de 4 régions linguistiques et principalement 2. Nous avons tout d'abord ici en bleu la Suisse romande, là où on parle français, c'est-à-dire les gens normaux. Et puis nous avons la Suisse alémanique, la Suisse primitive, qui est habitée principalement par les Suisses allemands que nous appelons, pour simplifier, les Bourbines. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, bien qu'elle soit située en plein milieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque référendum, les Romands votent oui, alors que les Bourbines disent nein. Nein. Alors attention, attention, ce n'est pas de l'allemand. Hein. Non, les Bourbines parlent une langue que personne ne comprend à part eux. Ça s'appelle le suisse allemand.
La leçon de géographie par Marie-Thérèse Porcher, c'est son nom de scène. En fait, c'est Joseph Gorgoni, un comédien qui est très connu en Suisse.
Absolument, très, très brillant, qui fait de la mise en scène, enfin quelqu'un de remarquable, et qui fait rire évidemment toute la Suisse, les romans surtout.
Parce que... Là, il imite l'accent vaguement genevois. Ce petit ton un peu pincé quand même.
Alors, il joue le rôle d'une femme d'un certain âge, un peu bourgeoise, avec un tailleur comme ça, faux Chanel, enfin. Donc, il surjoue un peu ça, mais il y a quelque chose, effectivement, on peut le reconnaître, oui.
Genève, la leçon de géographie, on en a bien besoin, parce que c'est d'abord un territoire frontalier dans un pays multilingue. Alors, quand même, quelques rappels, Marie-Josée.
Alors, déjà, Genève a 120 km de frontière avec la Suisse. D'un côté, le territoire du département de l'Ain, de l'autre côté, la Haute-Savoie. Et moult postes frontières qui, aujourd'hui, sont peu utilisés parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas rentrés dans l'Union européenne, mais ils ont fait des accords de Schengen. Et chaque matin, il y a des amas, des flots de frontaliers, c'est-à-dire de personnes qui habitent côté français, qui vont travailler côté suisse. Ça crée évidemment des embouteillages, des ressentiments.
83 000 travailleurs frontaliers qui quittent le sol français chaque matin pour aller travailler à Genève. En fait, quand on regarde la carte, Genève, c'est vraiment une langue de terre dans la France.
On est bien d'accord.
Oui.
Effectivement.
D'ailleurs, ça a été côté français autrefois.
Oui, pendant 15 ans, les Genevois n'aiment pas trop qu'on leur rappelle cette période où Genève était française. Genève n'a rejoint la Confédération helvétique qu'en 1815. C'était un des derniers cantons à rejoindre la Suisse. Et la Haute-Savoie n'a rejoint la France qu'en 1865. Donc l'histoire savoyarde et genevoise sont très, très liées. Et d'ailleurs, les Savoyards avaient attaqué Genève en 1602. Ils ont été repoussés. Et la bataille, qui s'appelle l'escalade, est toujours célébrée dans une fête incroyable, où maintenant on a des charters quasiment qui viennent de Chine pour célébrer cette victoire de Genève sur l'attaquant savoyard chaque année.
Alors, ces 83 000 travailleurs frontaliers qui quittent le sol français chaque matin pour aller travailler à Genève, la conséquence forcément des embouteillages monstres. Et vous parliez aussi d'un certain ressentiment de qui, pour qui, comment.
Bon, c'est un sujet un peu sensible parce que les Genevois considèrent qu'ils sont envahis par le flot de véhicules, notamment. Hein, c'est un des gros problèmes. Et aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion autour de ce qu'on appelle le Grand Genève, transfrontalier, avec la création d'un train qui va passer la frontière et pouvoir, on espère.
Ce Grand Genève qui va jusqu'à Lausanne, en fait, c'est urbanisé presque tout le temps.
Alors, toute la région, maintenant, lémanique, devient comme un grand territoire urbanisé. Côté jusqu'à Lausanne, bien sûr, côté suisse. Et puis, côté français, ça inclut Saint-Julien, Annemasse. C'est énorme, en fait. Il y a des statistiques qui disent qu'il y aura plus d'un million de personnes dans cette zone.
Oui.
Alors qu'il y a encore la nature autour. Enfin, c'est encore une zone très, très belle, oui, qui n'apparaît pas comme une grande agglomération.
Mmh. Un million, mais le Genève, c'est 200 000 habitants.
C'est tout petit. Oui, c'est ça qu'il faut. Le canton, donc Genève est la ville qui est à l'intérieur d'un canton qui s'appelle le canton de Genève. Et la ville occupe une grande partie de l'espace. Mmh. Et c'est très, très, très peu de personnes, entre 200 et 300 000 sur la ville. Intramuros encore bien moins. Donc c'est tout petit. Et c'est multiculturel incroyablement.
Alors ce ressentiment contre les Français tout de même.
Bon, moi ce que j'observe et que je peux comprendre, c'est que beaucoup de Français viennent pour travailler le matin, amènent même leur pique-nique avec eux pour le déjeuner, et puis repartent le soir, et puis connaissent très peu la ville. Alors bien sûr, je généralise, hein, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a ça, il faut le dire. Et puis, d'un autre côté, ce que les Genevois ne voient pas, c'est que du côté français, le fait que le niveau de vie en Suisse soit plus élevé, ils ont fait un peu monter, enfin franchement, monter les prix de l'immobilier. Leur présence, en fait, hein, quand je dis « ils ont fait », cette situation a fait que les prix d'immobilier sont élevés.
Dans
que
l'agglomération, y compris côté français.
Surtout, hein, enfin, oui, c'est surtout côté français que ça a fait flamber.
Et en quoi ça dérange les Suisses ?
Ben, ça ne dérange pas les Suisses, mais là, ça dérange les Français. Donc, il y a une animosité des deux côtés. C'est-à-dire, les Genevois reprochent aux Français de venir travailler et rien d'autre. Et puis, les Français reprochent aux Suisses, on va dire, d'avoir fait monter les prix dans cette région. Donc, il y a un petit tiraillement réel. On les appelle les frontaliers. Et quand vous dites frontalier à Genève, c'est waouh, quoi. C'est pas une étiquette que les gens aiment avoir, quoi.
Ces communautés-là ne se parlent guère ?
Je pense que les autorités des deux côtés font en sorte un peu de trouver des accords. Parce que je pense que si on règle un peu, notamment les problèmes de circulation ou les problèmes... en fait, si on aide les gens à communiquer entre eux, ça simplifie. Mais tous les pays du monde ont toujours quelques différends avec leur voisin d'à côté. Surtout quand le voisin d'à côté, c'est un petit peu vu comme le parent pauvre quand même. Hein. Parce qu'il y a une grande histoire commune entre Genève
alors
et la Savoie.
Le parent pauvre, c'est les Français.
Eh ben,
hein.
Oui. Ouais. Ben, oui.
Les prix de l'immobilier à Genève, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ?
C'est assez fou, quoi. C'est je dirais, deux fois les prix parisiens facilement. Facilement, toujours dépend des quartiers, tout ça, oui, c'est énorme. Je ne sais pas en mètres carrés, mais le moindre micro-studio, je ne sais pas, 40 mètres carrés, évidemment, ça dépend du quartier, mais vous ne trouverez rien à moins de 800 000 ou 600
euros.
000 euros, on va dire, 600 par là. C'est très cher.
À l'achat.
Enfin, dans mon expérience, oui, c'est ça, c'est cher, oui. Pour la ville même, hein, oui.
Quel statut vous avez, vous, par exemple, Marie-Josée Astre-Desmoulins ? Vous avez un statut de résident ?
Oui. Alors, tant qu'on est fonctionnaire international dans une organisation internationale, on a ça s'appelle une carte de légitimation. C'est-à-dire que c'est votre organisation qui fait les démarches pour vous. Vous avez l'autorisation de vivre sur le territoire suisse. Sachant que quand vous travaillez pour une organisation internationale, vous ne travaillez pas en Suisse, vous travaillez sur le territoire international. Donc, vous avez un droit de résidence. Puis, une fois que vous quittez ça, eh bien, il faut demander un permis. Donc, il y a différents types de permis, des permis temporaires, des permis de résident... selon un certain nombre de critères déjà prédéfinis. Puis après, vous faites une demande et puis on l'accepte ou pas. C'est pas si facile hein, d'être résident en Suisse, bien sûr. Hein. Enfin, il faut un certain nombre de critères et avoir ce qu'on appelle le permis C. C'est le Graal qui vous permet un peu de fonctionner, travailler, etc.
Shining stars protect me. When I finally understood that I was the universe, I embraced myself and the others too. I'm divine, we are divine, we are the elements and our power is limitless. I'm not afraid, cause I'm the love. And you shouldn't be afraid, cause you are the love too. We are only prisoners of our mind, of our mind, of our mind.
On On est dans cette ville, Genève, coffre-fort, dernier numéro de notre série d'été Vivre en ville. Marie-Josée Astre-Desmoulins, vous êtes résidente à Genève, vous nous le disiez. C'est pas si facile, d'autant plus quand on est française, d'avoir ce permis de résident à Genève. Et il y a une chanteuse que vous aimez bien, ou en tout cas qui représente une forme de diversité, puisqu'on a 40% des habitants à Genève qui sont étrangers. Aminata Kadeli, Flesh Love, c'est sa chanson.
Oui, je suis contente qu'on l'ait passée parce qu'elle représente bien la diversité aujourd'hui. D'abord, elle a une très très belle voix, elle a des origines berbères, enfin, elle me paraît très très bien incarner ce que Genève aujourd'hui. Et quand vous dites 40% d'étrangers, c'est depuis un siècle. Donc c'est complètement fou. Et d'ailleurs, les Suisses disent Genève, c'est pas la Suisse. Enfin, les autres Suisses disent Genève, c'est pas la Suisse. Justement, de cet aspect multiculturel, et puis sans doute de la proximité avec la France, ils considèrent les Genevois. J'ai souvent entendu des gens à Lausanne dire « les Genevois, c'est des, je cite, grandes gueules ». C'est assez intéressant.
Alors, il y a cette fierté quand même de ville multiculturelle et en même temps, ce ressentiment contre les Français, ça peut sembler un peu paradoxal.
Je pense que c'est un peu la question de la territorialité frontalière, en fait. Je pense que ça existe dans beaucoup de pays, hein, les gens d'à côté. Moi, je sais, quand je suis arrivée à Genève, la toute première fois, j'avais encore mes plaques savoyardes, hein, puisque j'habitais là. J'ai acheté ce petit appartement à Genève et je me suis installée. Donc, j'avais encore mes plaques. Et premier matin où je me lève, c'était marqué sur ma voiture « frontalier d'or ». C'était pas tagué, hein,
oui, on m'avait mis un papillon quand même. C'est pas vraiment un mot de bienvenue.
Ça arrive. Maintenant, à titre personnel, dans les dîners, je sais pas quoi, quand je dis que je suis savoyarde d'origine, j'ai jamais eu de problème, en fait.
Mais vous étiez aussi étiquetée comme une internationale, en ayant été fonctionnaire internationale au secrétariat de l'ONU à Genève. Il faut le dire, Genève, c'est des dizaines et des dizaines d'organisations internationales. Il y a la Croix-Rouge, bien sûr, avec le fondateur Henri Dunant, qui est genevois, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Bureau international du travail, l'Organisation météorologique mondiale. Tous ces gens qui travaillent dans ces organisations, d'ailleurs, que l'on entend régulièrement sur RFI pour analyser, disséquer les problèmes du monde.
Je crois que c'est 30 000 personnes, la population des internationaux, c'est énorme. Oui, et c'est vrai que quand on est des internationaux, les Genevois disent « Ah, mais vous vivez un peu sous une cloche, sous une bulle, on ne vous voit jamais. » Et puis les internationaux disent « Ah, mais on n'a pas de contact avec les vrais Genevois. » Et en fait, je crois que c'est des communautés qui sont un petit peu côte à côte. C'est vrai, quand vous vivez, par exemple, au Palais des Nations, hein, là où moi j'étais, ben vous avez des concerts, des expos, des rencontres. Puis c'est quand même fascinant de côtoyer chaque jour 193 nationalités. Donc, l'offre culturelle extérieure qui est énorme à Genève, vous n'y allez pas forcément, parce que même vous n'avez pas le temps. Enfin, n'y pensez pas. Donc, et puis le Palais des Nations, c'est dans un quartier, le quartier des organisations internationales. C'est un très joli quartier, le long du lac, avec des parcs magnifiques. Et souvent, on habite tout près. Moi, pour aller travailler, je passais devant les ambassades et tout ça.
Des logements qui s'échangent, en fait.
Entre
vous tous, oui. Donc,
c'est ça. Ça repasse parfois même pas par ce qu'on appelle les régies, par les agences, parce que c'est un peu normal, c'est un peu communauté, assez solidaire aussi, parce que pour la plupart des internationaux, on reste 4-5 ans quelque part et puis on s'en va. Donc les années où on est là, ben, on cultive aussi des relations internes. Donc il y a peut-être ça.
On met ses enfants dans des écoles internationales.
C'est ça. Et puis la langue, qui maintenant, faut quand même l'avouer, est quand même principalement l'anglais entre les internationaux, qui fait que peu de gens font l'effort, à moins de décider de s'installer en Suisse après, ce qui n'est pas simple, de parler français. Donc vous allez dans des commerces à Genève, si vous avez une tête d'international, en tout cas pas complètement suisse, on va vous parler en anglais. Donc ça n'encourage pas non plus, parce que quand même Genève est très francophone, les vrais Genevois, ils sont vraiment francophones. Hein. Ils sont bons pour les langues, parce qu'ils apprennent l'allemand depuis tout petit, tout ça. Mais c'est une vraie francophonie. Hein. Et j'aime ça d'ailleurs, c'est super de vivre pour moi, que je suis francophone d'origine, fait que ce soit ma langue et qu'ils y soient très attachés, plus que nous sûrement, parce que comme on l'a vu avec le sketch de Marie-Thérèse Porcher, ils sont qu'à 1 million de francophones en Suisse. Hein. Tous les autres, c'est des germanophones. Il y a quelques italophones, et puis le romanche, qui est une langue un peu étrange, 20 000 locuteurs. Mais donc du coup, ils sont comme les Québécois au Canada, ils sont très attachés aux Français, quoi.
Alors il y a aussi des représentations diplomatiques du monde entier, parce qu'il faut peut-être le redire, Genève, ça peut sembler surprenant, parce que c'est pas la capitale de la Suisse, c'est Berne.
Absolument.
Alors Genève, déjà, pour les jeunes, il se passe pas grand-chose, à Berne encore moins.
Vous allez me faire dire des trucs horribles. Non, je connais pas Berne, là je vais pas m'avancer. Y a une ville qui en Suisse est connue pour, enfin, reconnue pour être assez joyeuse et festive, c'est Zurich. Que je connais mal. Genève, moi, l'été, franchement, Genève, c'est extraordinaire. Il y a des théâtres de verdure, donc c'est des concerts en plein air dans des parcs, deux, trois fois par semaine. Ce qu'ils appellent les fêtes de Genève, avec alors des concerts beaucoup plus rock.
On va en parler, bien sûr, parce qu'il y a, vous le disiez, une culture à Genève. Il y a bien sûr cette culture complètement à part, cette vie culturelle anglophone pour les internationaux. Encore un autre bocal, un autre coffre-fort. Et puis la vie culturelle pour les Genevois. Genève ou la ville coffre-fort, 21 degrés aujourd'hui, temps couvert. Bah oui, hein, c'est une ville grise. 74% d'humidité. Signer le programme musical très hétéroclite, Marie-Josée Astre Desmoulins, pour cette ville coffre-fort Genève. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là?
Ça s'appelle Rance des Vaches. C'est un chant traditionnel qui est surtout d'ailleurs Fribourg, pas vraiment genevois, mais qui était les bergers qui utilisaient ça un peu comme chant de ralliement, etc. Et qui figure notamment, par exemple, dans les écrits de Rousseau. De Rousseau. Il faut savoir que Jean-Jacques Rousseau était quand même genevois. On le considère assez français souvent, oui, parce qu'il a vécu en France, parce qu'il avait dû s'exiler un peu. Mais Rousseau le mentionne. Et Rousseau, d'ailleurs, lui-même écrivait de la musique. Hein. Donc, Laurence des Vaches, c'est pas typiquement genevois, mais c'est juste magnifique, ces voix-là. Dans le folklore suisse, a quelque chose de magnifique.
Alors, ces vrais genevois, est-ce que c'est si difficile de les rencontrer? Est-ce qu'ils sont, vous l'avez dit, pas franchement amicaux envers les Français et simplement distants vis-à-vis des internationaux? Ces vrais genevois, ce milieu est difficile à pénétrer alors que la ville est internationale depuis plus d'un siècle. Il y a toujours cette étanchéité.
Il me semble que oui. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Je ne crois pas qu'elle soit consciente ou voulue. Je pense... Alors, il y a ce que je vais appeler un peu la bourgeoisie genevoise. C'est comme ça que je l'aperçois. Il y a une vieille ville. Dans la vieille ville, évidemment, comme dans beaucoup de vieilles villes, il y a un peu les restes des aristocrates avec des rues qui portent des noms de personnalités très connues, qui ont été parmi les pères fondateurs de Genève, etc. Donc ces milieux-là, ils sont un peu fermés sur eux-mêmes, comme je dirais partout dans le monde. Et eux continuent un peu à occuper quelque part la vieille ville, même s'ils ont aussi des résidences ailleurs maintenant. D'ailleurs, il y a un mot qui est assez amusant. La vieille ville est un tout petit peu en forme de colline. Elle est très petite, d'ailleurs. Et il y a un mot qui s'appelle un grimpion. Récemment, donc le grimpion, ça qualifiait quelqu'un qu'on appellerait en français, de notre côté de la frontière, un parvenu, c'est-à-dire quelqu'un qui grimpait sur la colline, mais qui n'était pas vraiment légitime d'être là-haut, quoi. Et au pied de la colline, bah, y avait les travailleurs, etc. Donc, c'est resté un peu quand même. Hein. Donc, il faut un peu avoir ces lettres de noblesse ou comprendre les codes de cette société, ouais, qui était quand même assez protestante, assez fermée, assez rigide. C'est connu pour être une ville calvin, c'est une ville protestante quand même. Moi, j'adore, hein, parce que vous parliez du gris, les murs, comme ça sont gris, la cathédrale. La cathédrale, quand même savoir qu'elle était une cathédrale catholique qui a été transformée en temple protestant. Donc, elle est juste étrange, hein, toute dépouillée comme ça.
Genève et ce vrai milieu des Genevois. Alors vous, la spécialiste de l'interculturel, de la gestion de conflits, il faut quand même dire que vous avez eu, et c'est ce que vous racontez dans votre livre, pas mal d'espoirs déçus dans les rencontres avec les Genevois, notamment dans un certain parking de votre immeuble.
Oui, j'ai raconté cette anecdote parce qu'elle me paraît bien incarner l'espoir, au fond, que j'avais de rencontrer des Genevois et la difficulté que j'avais. Je ne les croisais pas. Et un jour, donc, dans l'immeuble que j'habitais, il y avait quasiment que des internationaux. Quand il y a la fête des voisins, on mange des dalles de lentilles. Enfin, c'est incroyable. Et je me disais, mais c'est désespérant. Il n'y a pas un seul Suisse dans cet immeuble. Et puis un jour, l'agence m'appelle, l'agence qui gère l'immeuble, sur mon téléphone en me disant, écoutez, un certain monsieur, on va l'appeler Dubois, a un problème. En fait, il avait le garage à côté du mien. Il avait posé son véhicule à reculons dans le garage, et puis il était un peu dans la lune, et en fait il s'était mis dans mon garage sans se rendre compte, et quand il a refermé la porte, c'était une porte qui s'auto-verrouille. Donc il avait sa voiture, et au moment où ça s'auto-verrouille, il se dit c'est bizarre, c'était pas son garage. Donc sa voiture était enfermée dans mon garage. Donc la régie m'appelle pour me dire, il voudrait vous rencontrer si vous voulez bien ouvrir pour sa voiture. Et je vais vous dire, c'était une joie incroyable. Parce que quand elle m'avait dit le nom et tout, je me suis dit...
D'ouvrir le garage d'un Genevois.
Mais oui, je me suis dit, je vais rencontrer un
Genevois. Pour un Genevois, plutôt.
Et en plus, c'est lui qui a fait une erreur. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, dans mon imaginaire, hein, mais vraiment un côté extrêmement méthodique et très, bien organisé, en fait, des Suisses. Franchement, j'étais contente. Donc, je me suis préparée, j'ai retrouvé les clés de mon garage, ce qui n'était pas facile. J'ouvre, enfin, on se rencontre, charmant. Il prend sa voiture et il me dit, ah, mais... mon épouse et moi, on aimerait bien vous offrir une boîte de chocolat. Alors je dis non, 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 mais très envie que oui, parce que je me suis dit comme ça, je vais pénétrer dans un foyer genevois. Ça faisait des mois, peut-être 2-3 ans que j'étais à Genève. Et finalement, donc le lendemain, il me rappelle et il me dit boîte de chocolat. Moi, oui, ça y est, je vais y aller. Et en fait, on se rencontre dans le hall de l'immeuble.
Il ne vous a pas ouvert sa porte pour vous offrir un café.
Non. C'était la
pour vous remercier.
Donc voilà, ça me paraît assez incarné, alors que vraiment c'était extrêmement gentil de sa part. Mais on n'ouvre pas la porte comme ça, quoi.
Mais alors, comment rencontrer les Genevois à Genève? Comment les côtoyer? Vous avez fréquenté un atelier d'écriture, oui, par exemple, à Genève. C'est aussi ça qui a donné naissance à ce livre, Genève et moi. Est-ce que vous avez rencontré des Genevois qui se lâchaient un peu dans les ateliers d'écriture?
Alors ça, c'est chouette, oui, parce que dès que vous entrez dans des associations, des choses comme ça, oui, vous en rencontrez. Vous rencontrez aussi, bien sûr, 40% d'étrangers, tout un lot de multiculturels, ce qui fait que les Genevois qui sont là sont aussi des gens qui sont assez ouverts, qui ne vivent pas que à travers, on va dire, leur famille ou leur petit cercle d'amis de l'école. Ou, voilà. Et donc là, oui, quand même, toutes sortes de gens. Et en fait, le Genevois, je dirais, l'un des Genevois typiques aujourd'hui, c'est aussi, par exemple, les Portugais ou les Italiens de troisième ou quatrième génération, hein, qui sont incroyablement Genevois parce qu'ils ont fait l'école, leurs enfants font l'école, etc. Et là, ça devient très sympa. Quoique, passer la porte, c'est toujours pas facile. Passer la porte, c'est pas facile. Entrer, je sais pas pourquoi. Entrer chez les gens. On se voit beaucoup au café, par exemple, ou à l'atelier. On se raconte des trucs, passer la porte, c'est dur.
On déménage assez peu à Genève, vous avez dit, parce que justement, il y a cet attachement au quartier, à son logement. Bon, d'abord, l'immobilier est sous tension. Et alors, quand on est locataire, alors là, il y a quand même un nombre de règles assez hallucinantes. Par exemple, il faut demander une autorisation pour repeindre son appartement.
Absolument. Absolument. Alors, ça, la question de l'appartement, c'est intéressant. C'est peut-être pour ça qu'on n'ouvre pas trop sa porte, je ne sais pas.
Parce que derrière, ce n'est pas terrible, quoi, finalement, c'est ça.
Absolument. Je suis désolée, mais le parc immobilier, celui que je connais, du Genevois moyen...
C'est vrai que ça va surprendre des auditeurs, hein, là, ce que vous nous racontez. Mais
d'abord, très très peu de Genevois possèdent leur appartement. Les appartements, ils sont presque tous aux mains des banques ou de compagnies d'assurance, etc. Ils sont en location. Et pour protéger les locataires, il y a une association très puissante qui donne... Quand vous avez un bail, vous pouvez même le transmettre à vos enfants après votre décès, quoi. Je veux dire, c'est très, très difficile de faire partir quelqu'un d'un endroit. Donc, et une fois que les gens ont fixé un loyer, quelquefois, 30 ans plus tard, le loyer n'a été réajusté que sur le coût de la vie. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes pour protéger les Genevois. En revanche, vous faites pas n'importe quoi, quoi. Et donc moi j'ai pris
n'importe quoi, ça veut dire quoi?
Ben, par exemple, même faire un trou dans le mur pour suspendre un tableau. Moi, le nombre de gens qui me disent qu'ils n'ont rien sur les murs et qui me disent mais attends, non, si on fait des trous, tu te rends compte, si jamais on partait un jour, ça fait 15 ans qu'ils sont là, quoi. Il faudrait repeindre, quoi.
Reboucher le trou.
Il y a une angoisse par rapport à l'état des lieux. L'état donc, des lieux, c'est un stress, quoi. Je veux
dire. Ni trou ni tâche.
Ni trou ni tâche. Ce qui correspond bien d'ailleurs. Au côté réservé des jeunes voix ou au côté on montre rien, voyez.
José Astre Desmoulins, si Genève devait s'écouter, ça serait quoi? Ça serait... Là, on a entendu le carillon de la cathédrale.
Ah ouais, j'adore. Hein.
Et puis, derrière, il y a le vombrissement très discret hein, des mouettes. Les fameuses mouettes.
Alors, les mouettes, donc, quoi, les mouettes, ouais. Les mouettes du lac. Mais là, ce qu'on entend, c'est les mouettes, c'est les petits bateaux qui traversent le lac, qui sont comme des bus. Hein, on prend avec un ticket de bus, même moins cher qu'un ticket de bus qui permettent, parce que comme Genève est à la pointe du lac Léman, et puis après le Rhône, c'est cool là. Donc pour traverser cette petite pointe, et ben vous pouvez monter sur ces petits bateaux. C'est juste incroyable. Vous avez l'impression d'être Céline Dion, là, à la proue du Titanic, là, c'est phénoménal. Donc il y a le bruit de ces petits bateaux, les bateaux à aubes. Il y a des bateaux incroyables, on se croirait sur le Mississippi, hein, qui servent aussi à aller de Genève à Lausanne, par exemple, qui peuvent aussi servir aux touristes et qui font ces bruits, ces grosses sonneries de bateaux. Dans les bruits, qu'est-ce qu'il y a encore? Deux pas de Genève, il y a le bruit des sécateurs là, dans les vignes, parce qu'il y a des vignobles juste à côté, avec des petits vins un peu acides, comme ça. Ouais, ils vont pas aimer les jeunes voix si je dis des vins acides, avec d'excellents vins qui ont du corps.
C'est ça, je vous sens un peu tendue pour parler de Genève, que vous aimez profondément. Et en même temps, vous vous sentez un peu surveillée hein, quand vous parlez de Genève, en étant française, non?
Ah, c'est rigolo. Je dirais pas comme ça. Je dirais que j'ai un tel amour pour cette ville que je suis pas sûre d'être
de bien la comprendre
ou d'être objective en fait, vous voyez, c'est pas une question de tension. Vous appelez, quand vous avez l'émission qui s'appelle Genève coffre-fort, je me dis ouais, c'est un peu comme ça que je le sens, c'est-à-dire mais que je le sens au niveau émotionnel, c'est un peu le coffre-fort comme ça de mon cœur. Donc j'ai vraiment l'impression de, quand je parle de Genève, de parler d'un truc tellement personnel, alors que là je parle à la radio, oui, à plein de gens. Je me dis attends, il faut quand même être clair que tu es pas en train de parler. Je pense que si l'Office du tourisme en parlait, il ne dirait pas la même chose.
C'est sûr. Et dans votre livre, il y a beaucoup de coulisses de Genève. Alors, pour revenir aux appartements, après, on va parler bien sûr de l'offre culturelle à Genève, des spectacles. Mais quand vous avez voulu faire des travaux dans votre tout petit studio acheté à prix d'or à Genève, il y a un entrepreneur qui vient pour faire des devis et puis vous lui dites que vous avez un budget contraint, bon bah comme partout dans le monde, et il vous dit oh ben non mais ça je vous suggère, vous pourriez faire ça, puis ça, puis ça, ça c'est juste un petit billet de 1000, donc ça doit être une expression hein, un petit billet de 1000, et vous lui faites remarquer que bon là ça va quand même être un peu cher, et là il vous dit ah écoutez madame hein, ou on fait du bon travail, ou on fait ça à la savoyarde.
C'est dur. Hein,
wow. Vous êtes précisément savoyarde.
Ah oui, et je crois qu'à ce moment-là, soit il s'en est pas rendu compte, soit il a donné l'expression sans, en ayant même oublié ce que ça veut dire, quoi. Simplement, je suis là ce jour-là avec mon fils, on est dans le studio, et il voit, je crois qu'il voit quelque chose, on se regarde même pas, mon fils et moi, mais il doit voir quelque chose sur nos visages, là. Et à ce moment-là, il essaye, le pauvre, de se rattraper en disant « Oui, mais vous savez, les artisans français, les compagnons, c'est magnifique. » Mais voilà, c'est quelque part, c'est trop tard. Et nous, on est sidérés. Parce qu'en plus, les entreprises suisses, il faut quand même savoir qu'elles embauchent beaucoup de Français.
De maçons et de peintres français. Alors, Genève, il se passe des choses sur le plan de la culture. Vous pourriez nous parler de Grütli?
Alors, moi, le Grütli, par exemple, c'était une expérience assez extrême parce que c'est un lieu qui est à la fois un théâtre, un cinéma, enfin, des salles de cinéma, un restaurant. Et j'ai eu un mal fou à décrypter cet endroit par hasard, par exemple. Parce que c'est un peu le côté temple de la culture, Alors là, on est dans la Genève culturelle et multidimensionnelle, parce que...
Donc c'est une salle, hein, c'est un théâtre.
C'est une salle, c'est un bâtiment avec à l'intérieur plein de salles. Il y a même des salles pour faire de la danse, enfin. Donc je ne comprenais pas comment rentrer dans cet endroit, en fait. Alors que, par exemple, eux, ils utilisent des monnaies alternatives comme le léman. Ils ont appelé le léman cette monnaie qui permet de payer entre différents commerçants. Enfin, mais entrer dans ces milieux-là, pour moi, ça a été tout un décryptage. Parce qu'encore une fois, comment connaître le Genevois qui va vous donner la clé d'entrée, quoi.
Donc il y avait une espèce de... Il y a bien un programme.
Oui, qui était, en tout cas dans ma lecture, comme j'en avais moi, assez complexe à lire. Parce que justement, il y a énormément... de choses à l'intérieur.
Donc que choisir, qu'est-ce qu'il faut aller voir. On est très mal installé dans la salle, dans l'une des salles en tout cas.
Vous avez pris les parties de mon livre difficiles. C'est-à-dire, c'est dur là. C'est-à-dire que ces salles, en fait, je pense que c'est vrai dans toutes les villes du monde. Dès qu'on est un peu dans des trucs un peu intello, il y a des codes, en fait. Donc, tant qu'on ne connaît pas ces codes, c'est assez difficile à décrypter.
Et on pourrait dire ça aussi, la comédie française. Hein, les sièges, c'est terrible. On a très mal aux fesses, on est très mal assis, on ne peut pas bouger. Ouais, on pourrait aussi dire ça à Paris, hein, sur certains théâtres.
Ça, je me sens mieux.
À l'ancienne.
Il y a un petit peu de ça. Là, c'est plutôt des installations beaucoup plus modernes. Il y a une vraie créativité à Genève. Hein. Que ce soit dans le monde de l'édition, du spectacle, du théâtre. Il y a des metteurs en scène, par exemple, de théâtre comme Dominique Ziegler, qui est aussi dramaturge, qui sont extraordinaires, qui d'ailleurs a été invité à Avignon. Au niveau de l'édition du livre, c'est incroyable. Par contre, ça passe très très mal les frontières. Je pense que peut-être parce que la France a déjà une grande production française, mais ça passe très très mal. C'est très difficile pour les éditeurs suisses d'être d'avoir des diffusions. Même les... Bon, dans les personnalités très connues suisses, vous avez Zepp ou Stéphane Escher. Eux, ils ont largement passé les frontières.
Qui n'est pas Genevois, d'ailleurs.
Escher, non. Ouais. Zepp, il l'est. Hein.
Ouais, le père de Titeuf, la célèbre bande dessinée pour les enfants. Et est-ce qu'il reste des traditions dans une ville qui, finalement, est diluée dans plus de 180 nationalités?
Ah, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'il y a une identité de cette ville incroyable. Je parlais tout à l'heure de la fête dite de l'escalade qui célèbre les Savoyards, enfin la victoire des Genevois sur l'attaque savoyarde de 1602. Il y a une compagnie qui s'appelle la Compagnie 1602 qui a des costumes incroyables. Toute la ville s'habille avec ses costumes de 1602. Les chevaux traversent la ville, on rejoue toute l'attaque. C'est vraiment incroyable, et ça marche. Il faut une course de l'escalade où il y a des milliers et des milliers de participants. Cela dit, vous imaginez, si des Alsaciens se mettaient à faire une fête où ils jettent des Allemands au feu, parce qu'on fait un feu où on jette les Savoyards dedans. Quoi. Donc il y a une identité du canton. C'est ça qui est chouette aussi en Suisse, hein, c'est que chaque canton a vraiment une identité. Donc le canton de Genève a cette identité-là. Donc il y a la fête de l'escalade qui célèbre ça, qui est une fête guerrière pour la ville de la paix. C'est quand même Genève, symbole de paix.
Et le printemps qui est annoncé
Et le printemps. Ah, le printemps, il est annoncé par une personne en habit qui s'appelle le sautier. Et qui vient annoncer, en regardant un marronnier sur une grande promenade qui s'appelle la promenade La Treille, un marronnier spécifique, chaque année, il va regarder quand il y a l'éclosion de la première feuille et il déclare que le printemps est arrivé. Il y a un grand registre où ça est noté. C'est joli comme tout, en fait.
Et comment on a la chance de le voir, ce sautier, annoncer le printemps, finalement? C'est une apparition assez éphémère, non?
Alors, c'est annoncé, en général, la date à laquelle... Après, il y a même une publication officielle, hein, de la date du sautier, etc. Donc, c'est une jolie réjouissance.
Le jet d'eau, évidemment, toujours l'emblème de la ville.
Qui a été installé parce que c'était un problème hydraulique, il y avait trop de pression.
À quoi il ressemble?
C'est 300 mètres, je crois. J'espère, je ne dis pas, ou 140, je ne sais pas. Très, très haut. Alors, ce sont chaque matin, c'est des retraités qui s'occupent de ce jet d'eau. Il vient allumer, je crois que c'est 7h-23h, hein, les horaires. Donc, il vient allumer le jet d'eau, coupe le jet d'eau. Hop, c'est un grand... c'est la pression, hein, qui est jetée vers le haut. Donc, au départ, c'était pour régler un problème technique. Puis aujourd'hui, c'est devenu l'une des choses les plus photographiées dans Genève. Hein. Et il y a aussi ces fameux retraités qui sont les seuls, mieux que les machines, capables de dire à quel moment il faut le couper à cause des vents, parce que les vents pousse l'eau contre les bateaux et c'est dangereux.
Bienvenue au pays de l'horlogerie. Marie-Josée Astre des Moulins, on n'a pas encore parlé des banques à Genève, et peut-être d'ailleurs n'avez-vous pas envie d'en parler, mais vous avez peu côtoyé, vous côtoyez peu de... C'est-à-dire que les internationaux dont vous faites partie côtoient peu de banquiers.
Eh bien, je dois dire que maintenant, je commence quand même à avoir rencontré pas mal de monde à Genève. Eh bien, je n'ai jamais rencontré un banquier. Alors, je ne sais pas si c'est lié au secret bancaire ou s'il se cache quelque part. Mais voilà, c'est vrai que les banques à Genève ont eu un petit peu de chaos, hein, parce qu'ils ont été accusés des pires maux. Ce que je sais quand même, c'est que quand je dis à Paris ou n'importe où dans le monde que j'ai un compte à l'UBS... quand même.
Une hein, des banques suisses. Alors, on ne va pas entrer dans le débat sur le secret bancaire, mais en tout cas, récemment, on a découvert quand même que les banques étaient les cancres de l'égalité salariale, puisque la Tribune de Genève a publié, comme le reste de la presse, d'ailleurs, qu'il y avait 23% d'écart entre les salaires des hommes et des femmes à poste égal. Et d'ailleurs, ça a suscité pas mal de protestations. Et c'est parmi les cadres que les écarts sont les plus forts. Est-ce qu'il y a des pauvres à Genève? Est-ce qu'on voit des pauvres? Parce que on lit dans la presse que plusieurs rapports signalent l'augmentation de la précarisation. Est-ce que ça se voit à l'œil nu à Genève?
Oui. Et moi, qui, comme vous l'avez dit, voyageais beaucoup et vécu dans beaucoup de villes, beaucoup moins qu'ailleurs. C'est ça qui est assez dingue, et qui fait que Genève est une ville assez paisible et extrêmement agréable à vivre, parce qu'on a toute la diversité et relativement peu de problèmes économiques. Maintenant, comme ce n'est pas moi qui allais traiter, bien sûr qu'il y a aussi des cas, etc. Et je voulais revenir sur la question d'égalité salariale, parce qu'il y a deux aspects. Il y a cet aspect-là qui est vrai, et il y a eu une super grève des femmes extraordinaire en Suisse qui a été relayée par les médias quasiment dans le monde entier en juin. C'était juste phénoménal. 75 000 personnes à Genève.
Et à l'intérieur de laquelle il y avait les protestations des femmes dans la banque, d'ailleurs.
Le premier revendication. En fait, ce qui a déclenché cette grève des femmes en Suisse, mouvement phénoménal, c'est cette inégalité salariale. Et d'ailleurs, les femmes sont arrêtées de travailler à 15 heures ou quelque chose comme ça ce jour-là. Beaucoup d'hommes ont pris le relais, par exemple, dans les écoles. C'était vraiment un très beau mouvement. Et parallèlement, la Suisse a quand même un conseil fédéral. Il faut savoir que le président suisse, il n'est élu que pour un an, à l'intérieur d'un groupe de 7 personnes, où il y a, pour le moment, 4 femmes et 3 hommes. Donc il y a aussi, au plus haut niveau... Et là, on pourrait bien prendre des leçons dans beaucoup de pays, notamment dans le mien, la France. Au plus haut niveau, on a vraiment des femmes qui ont été présidentes de la Confédération, qui ont des postes très importants. Donc, en parallèle, il y a encore beaucoup à faire et il y a aussi beaucoup d'avancées.
Marie-Josée Astre des Moulins, genevoise d'adoption presque. Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes loin de Genève? Parce que pendant des années, vous étiez très souvent en voyage à l'autre bout de la planète pour vos fonctions onusiennes. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui vous étripait quand vous voyiez des images, ne serait-ce que de cette ville.
Absolument. Je me souviens d'un cas, j'ai vécu 2 ans à New York, j'étais déjà à Genève, je suis partie à New York pour 2 ans, et un jour, le mari d'une collègue, enfin une collègue m'envoie son mari, et qui arrive avec une boîte de chocolat, le plus kitsch possible, vous savez, il y a les petites photos de Genève sur chaque chocolat. Donc, j'étais dans une salle de formation, je donnais une formation, il entre discrètement, il me donne cette boîte de chocolat avec les petites photos de Genève dessus. Je vous assure, j'avais les larmes aux yeux. Et quand j'ai quitté New York pour venir vivre à Genève, c'était comme... j'ai eu l'impression... D'ailleurs, j'avais plein de douleurs dans le corps quand j'étais à New York. Je suis arrivée à Genève, j'étais bien, vous voyez.
Merci Marie-Josée Astre des Moulins d'avoir partagé votre coup de cœur pour Genève. À découvrir plus en détail et en rencontre, d'ailleurs, Genève et moi, aux éditions des Sables. C'est un atelier d'écriture à Genève qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'être passé chez 7 milliards de voisins. On vous souhaite un très bel été, sûrement en grande partie à Genève.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
7 milliards de voisins, on revient, on est toujours en direct. Sina Tusaka vient de nous rejoindre parce qu'on va rester dans le monde des villes. Dans quelques instants, on va parler tout de suite d'ailleurs du concours Challenge App Afrique qui est organisé par RFI et qui porte cette année sur la ville intelligente et connectée. Bonjour Sina Tusaka.
Bonjour Emmanuel.
Challenge App, c'est la 4e édition du concours.
C'est ça, c'est la 4e édition et cette année, la thématique, c'est donc la ville intelligente. Donc l'idée, c'est d'imaginer des solutions mobiles, en tout cas des innovations pouvant améliorer la ville la vie urbaine en Afrique francophone.
Alors, à qui s'adresse ce concours et exactement pour transformer quoi et comment ?
Alors, le concours, il s'adresse d'abord à des jeunes entrepreneurs francophones basés en Afrique. Donc, la solution doit être développée là-bas et pour les Africains et donc par les Africains aussi. Ce qu'on recherche, c'est vraiment des solutions numériques, on va dire concrètement des applications mobiles pouvant résoudre, par exemple, des problèmes de titrisation des terres ou même des problèmes d'embouteillage, par exemple, parce que la mobilité est quand même un vrai enjeu sur le continent. Et pourquoi pas pouvant améliorer la vie locale.
Ouais, ça peut être les déchets.
C'est ça, ça peut être les déchets, ça peut être l'énergie, ça peut aussi permettre à des populations de mieux communiquer avec leur municipalité, par exemple, de pouvoir favoriser cette entraide, en tout cas dans leur communauté.
Ouais. Vous avez déjà reçu des projets, parce que le concours il est ouvert depuis quoi maintenant
un mois.
Donc vous pouvez nous donner des exemples de projets que vous avez reçus ou pas d'ailleurs. Alors, parce que moi j'ai rien vu encore.
on a reçu effectivement déjà beaucoup de projets assez intéressants et surtout très différents.
C'est très large, la ville intelligente et connectée, c'est très large.
C'est ça. Et donc les projets étaient, en tout cas, sont assez différents. Il y en a beaucoup qui moi me surprennent, mais on en reparlera une autre fois. Ce qui est très 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 intéressant et qui ressort beaucoup, c'est des projets d'applications mobiles autour des transports. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, pouvant faciliter le déplacement dans la ville, donc pouvant aider à connaître le prix des trajets, par exemple. Et aussi, quelques projets autour de comment signaler des incendies, par exemple, et aider les autorités à réagir beaucoup plus promptement.
Ouais. Je sais, Sina Toussaka, que ce qui vous tient à cœur, à nous tous d'ailleurs, à RFI, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des propositions et des projets qui tiennent compte de la ville africaine en tant que telle.
C'est ça, parce qu'en fait, on est persuadé à RFI qu'une ville intelligente en Afrique n'est pas du tout exactement ce que représente une ville intelligente en Occident. Il y a énormément de personnes qui travaillent sur le concept de Smart Village, par exemple, et on aimerait vraiment que les jeunes entrepreneurs en Afrique francophone puissent imaginer ce genre de solutions concrètes pouvant s'adapter à leur contexte, mais aussi
et à leurs problèmes,
mais aussi, pourquoi pas, pouvant être répliqués ailleurs. Voilà.
La date de fin de l'appel des candidatures, c'est pour bientôt ?
C'est pour bientôt, donc n'attendez surtout pas le dernier moment, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de travail en amont de tri aussi, donc n'attendez pas le dernier moment. La date limite, donc c'est le 31 août, donc dans un mois, pile poil.
Ouais. Il y a plusieurs centaines de candidatures en général. Il y aura un gagnant, 3 finalistes. Alors, il faut qu'on dise un mot des partenaires aussi.
Il faut qu'on dise un mot des partenaires parce que sans eux, on n'en serait pas là. Donc, on a des partenaires assez intéressants. D'abord, des incubateurs locaux donc, qui nous soutiennent et qui nous aident à relayer ce concours-là. Mais aussi, on a des partenaires très classiques comme NG Africa, comme Africa Global Recycling, comme la Société Générale aussi, qui nous soutiennent et qui surtout vont aider les entrepreneurs qui soient gagnants ou pas après le concours.
Bon, les voisins qui nous écoutent, qui sont de jeunes entrepreneurs, un peu geeks sur les bords, en tout cas, il vaut mieux avoir une solide équipe informatique
avec
soi. C'est ça,
et surtout, ne vous privez pas, si vous avez une idée qui vous semble hyper ingénieuse, n'hésitez pas à postuler, parce qu'à la clé, il y a quand même 15 000 euros pour développer votre projet.
La finale aura lieu à Dakar en décembre prochain. J'aurai l'honneur de présider le jury. Il y a donc une vraie dotation à la clé pour développer l'application. Merci à vous, Sina Toussaka. On rappelle donc l'adresse du site. Il reste 3 semaines pour candidater. L'adresse ?
Alors, c'est app.rfi.fr.
appafrique.rfi.fr. Il vous reste 3 semaines, les voisins et les voisines, pour candidater. Les voisines aussi, j'insiste bien. Voilà, merci Sinatou. Cette série d'été Vivre en ville, 10 épisodes, 10 villes, est à retrouver en podcast sur rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Je remercie bien sûr toute l'équipe qui a préparé, réalisé cette série d'été. Cécile Lavolo, Sigrid Azeroual, Delphine De Dianou, Steven Elsley, Romain Dubrac. Pendant les jours qui viennent, on va vous proposer de réécouter une sélection de nos émissions. Et on revient le 27 août au moment du G7 avec un reportage au Tchad sur l'accès des filles à l'éducation. On vous souhaite un très très bel été les voisins. Et bien sûr, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous de votre fidélité. We'll be right back.